Bonjour à toutes et à tous, c'est Façon de voir sur NVS, l'émission consacrée aux arts visuels et vivants présentée par Samuel. Pour la 16e édition, je vous transporte à Lucenay, au cœur de l'Aussois, dans le 21. Dans ce territoire riche en histoire, on va parler théâtre, scénographie, costumes de scène, événements. Plus globalement, on va parler de création artistique dans le domaine du spectacle vivant. J'ai aujourd'hui à mon micro un garçon aux multiples talents. Il est à la fois auteur, directeur artistique, comédien, costumier, créateur textile et j'en passe. Ce garçon qui déborde d'énergie réinvente sans cesse le théâtre de proximité. Avec ses camarades de jeu, il imagine de nouvelles formes de spectacles populaires qui allient culture et convivialité, fêtes et gastronomie. Le point commun entre toutes les opérations qu'il mène, un attachement fort et profond pour ce territoire situé à une quarantaine de kilomètres de Dijon, où on croise notamment la trajectoire de Vercingétorix et de Sainte-Reine, il nous en parlera tout à l'heure. Mon invité du jour, donc, qui me fait l'honneur de m'accueillir chez lui, s'appelle Élie Lafage. Élie, je ne sais pas si tu es satisfait par cette présentation. Je vais d'ailleurs peut-être te laisser te présenter, ce sera ton petit tour de chauffe.
Bien, alors oui, effectivement, je m'appelle Élie Lafage, j'habite dans un petit village du Nord-Côte d'Or, où il n'y a pas beaucoup d'habitants, mais il y a beaucoup d'activités, activités associatives, activités sportives, activités culturelles, et j'en fais partie. Je fais partie de plusieurs associations qui ont toutes un point commun, c'est de rassembler les gens autour d'événements en lien avec le spectacle vivant. Voilà, c'est vraiment ça qui m'anime, c'est-à-dire que ce soit le théâtre, l'événementiel, le côté animation, le côté artistique, culturel, c'est ça qui va un peu me définir en fait, voilà.
Rillettes et paillettes, charmant mais pas que, plein de projets en préparation, des projets passés aussi. Tu vas nous raconter tout ça. Quand je dis projets, ce sont la plupart du temps quand même des pièces de théâtre, mais tu m'expliquais hors micro également que tu travailles dans l'événementiel, par exemple des événements pour des expositions. Donc globalement, ce qui t'intéresse, c'est plutôt les festivités qui gravitent autour du spectacle vivant.
Oui, c'est ça, ce qui me semble important, c'est de rassembler les gens autour d'événements qui vont créer soit la surprise, soit des choses plus connues. Hein, quand les gens viennent voir Théâtre au Village avec le spectacle Rillettes et Paillettes, ça fait 30 ans qu'ils nous suivent, ils savent exactement qu'ils vont venir dans une salle avec une scène qui va être montée pour l'occasion, avec des rideaux rouges et tous les codes du théâtre, et ils vont venir rigoler. Voilà. Après, ils ne viennent pas forcément voir la pièce, ils viennent voir les gens qu'ils connaissent. Et puis rigoler et passer un moment ensemble, quoi. Boire un coup à la buvette et manger une part de gâteau, ça fait aussi partie de l'événement que j'ai envie de conceptualiser, de réaliser.
Alors on va voir si on va rigoler ensemble pendant cette petite heure, mais tu vas nous reparler de Rillettes et Paillettes et des autres spectacles dans un instant après la pause musicale.
Ouais, super. À tout à l'heure.
Maybe we should switch careers, 'cause baby you don't know I'm your top poker faces.
Please.
Fache, parmi tes multiples talents, tu es président de l'association Théâtre au Village qui a fêté ses 30 ans.
Exactement, je suis président depuis peu de temps, mais donc on a fêté les 30 ans de Théâtre au Village qui a été créé par mon papa et un autre agriculteur en 1994. Et l'idée de cette association, c'est de rassembler les personnes dans les milieux ruraux pour proposer un spectacle tous les ans différents sur une tournée en mars-avril. Voilà. Et cette association, l'objectif, c'est de rassembler pour rigoler autour d'une pièce de théâtre, le plus souvent humoristique.
Alors, la dernière pièce jouée dans le cadre de cette association, tu peux nous dire ce que c'était ?
Alors oui, les 30 ans ont été marqués par un spectacle qu'on a écrit avec Benoît Duverger, qui s'appelle « Rillettes et paillettes ». Et c'est l'histoire de boucher charcutier traiteur de la région parisienne des années 1960, qui commence à avoir une activité qui bat de l'aile et qui décide de mettre en place un cabaret pour pouvoir faire venir d'autres personnes dans leur boucherie de façon un petit peu différente. Et c'est là où on a joué beaucoup sur les costumes, entre les costumes couleur Vichy des années 60, un peu pop, et puis le côté paillette du cabaret. Et donc on a mélangé des plumes, des cornichons et des tranches de jambon.
Sur ce spectacle, on peut dire que tu es à la fois auteur et directeur artistique, puisque quelque part tu l'as écrit ou co-écrit, et puis tu as également une part active dans la fabrication des éléments visuels.
Dans l'écriture, en fait, ce qui me plaît vraiment, c'est de conceptualiser une sorte d'arc narratif qui va permettre d'emmener les gens quelque part dans un univers un peu burlesque et puis, j'espère, drôle. Enfin, je pense que les réactions du public durant cette tournée a démontré que ça l'était. Et puis, dans la conception, j'ai toujours en tête quel costume va aller avec quel personnage. Qu'est-ce qu'on va mettre dans les éléments de décor et la scénographie pour pouvoir mettre en valeur la scène proposée. Et puis après, y a le plaisir du jeu. J'allais dire le plaisir de l'apprentissage du texte un petit peu moins, mais c'est pas la partie la plus rigolote. Mais il va y avoir la partie jeu où on va découvrir nos personnages et puis après le proposer sur scène, quoi. Et la réaction du public va modifier un petit peu ce qu'on avait préconçu, ce qu'on avait imaginé. Et c'est ça qui est hyper intéressant et très constructif.
Dans ce spectacle, tu joues aussi ?
Ouais, dans le spectacle, je faisais le rôle du boucher et mon papa jouait le rôle du père du boucher en tant que boucher. Donc on était boucher de père en fils et dans la vie, on est fils et papa et sur scène, on l'était aussi cette année, c'était rigolo.
Dans certains autres spectacles, tu es plutôt en coulisses, tu t'occupes par exemple des costumes, on en parlera tout à l'heure à travers deux spectacles dont un qui revient assez régulièrement, mais est-ce que sur cette expérience-ci par exemple, tu trouves une plus-value à être à la fois en plateau et en coulisses, puisque c'est les deux casquettes que tu as sur ce spectacle?
Ouais, moi j'ai une particularité, c'est que j'aime être sur tous les fronts, j'aime organiser, j'aime créer, conceptualiser, effectivement j'ai envie de tout faire. Et c'est pas vraiment souvent que je suis que dans les coulisses. Je l'ai été pour le spectacle de Vercingétorix, où j'ai fait l'habillage des comédiens et des comédiennes, et des danseurs et des danseuses. Mais c'est vrai que j'aime un peu être sur tous les fronts dans l'ensemble des manifestations que je mets en place.
Alors Vercingétorix, on en reparlera tout à l'heure, hein, dans le deuxième volet de l'émission. Mais restons un instant sur Rillettes et Paillettes. Tu as parlé de tournée, alors dans quelle salle vous vous produisiez ?
Ah oui, ça c'est une grande particularité de Théâtre Village, c'est-à-dire que comme dans l'univers du théâtre des tréteaux de l'après-guerre, en fait, on a une scène qu'on monte et qu'on démonte avec des praticables et on a une sorte de petite boîte qu'on monte et qu'on démonte dans chaque petit village aux alentours de Venard-et-les-Laumes, dans le 2150 essentiellement. Et on a environ entre 6 et 8 villages dans les tournées, ça dépend des tournées, ça change un petit peu, il y a des villages fixes. Je pense à Autroche qui nous prête la salle pour la répétition. Donc du coup, évidemment, on joue à Autroche. C'est un petit peu le fief de Théâtre au Village. Et puis après, il y a des villages qui tournent. On joue parfois à Touillon, parfois à Salmès, parfois à Villon-aux-Soies, etc. Et l'idée, c'est de rassembler les gens dans des petits villages de moins de 300 habitants.
Ce qui permet d'amener la culture partout.
Bien sûr, amener la culture, amener le rassemblement. Comme je disais tout à l'heure, l'idée c'est de rire ensemble, de voir un spectacle ensemble, mais aussi de discuter à la fin avec les gens, etc. quoi.
Amener la culture partout, ça t'est cher, puisque tu as, ce qui te fait vivre, c'est la profession d'enseignant. Et tu m'as expliqué que tu as une formation d'animateur socioculturel, un métier que tu as exercé.
Oui, exactement. J'ai une formation d'animateur socioculturel. J'ai travaillé essentiellement avec des personnes en situation de handicap et des enfants. Et puis après, je me suis reconverti en tant qu'enseignant en sciences et techniques médico-sociales en lycée professionnel. J'ai des élèves qui se destinent à faire de l'aide à la personne ou de l'animation socioculturelle, ou soit avec la petite enfance, soit avec les personnes âgées.
Enseignant en plus de comédien et directeur artistique, revenons si tu veux bien à ta passion, le théâtre. En préparant l'émission, tu m'as parlé d'un costumier. Dans quelques instants, tu vas m'y emmener, tu me l'as promis. Mais est-ce que tu veux déjà en dire un mot ?
Je suis collectionneur de costumes depuis que je suis tout petit. Et ils ont été longtemps chez mes grands-parents, dans le grenier des grands-parents. Et puis j'ai voulu rapatrier tout à la maison dans la grange. Et avec mon papa, on a créé un costumier dans la grange que tu vas découvrir. Et l'idée, c'est d'avoir classé un peu l'ensemble de ces fripes, de ces récupérations, de ces créations de costumes pour pouvoir les prêter ou les utiliser à chaque événement. Et c'est vrai que tous les ans, on ramène des pièces, mais l'idée, c'est quand on a une cinquantaine de bénévoles sur un événement comme au Muséoparc, normalement, il y a un dress code pour 50 personnes largement pour qu'on puisse rentrer dans un univers autour du costume. Ça fait vraiment partie du jeu, quoi.
Et bien alors, on en reparle tout de suite. Et le temps de la pause musicale, on va prendre nos baskets et tu me conduis jusqu'au hangar.
Ouais, c'est ça. Allez, hop, c'est parti.
Radio, connecté à votre région.
C'est Façon de voir sur NVS Radio, toujours en compagnie d'Élie Lafage, artiste polymorphe, qui nous a emmenés dans son costumier pour nous parler de sa passion, de l'événement et du spectacle. Ici, on est donc dans ta grange, un espace conçu et fabriqué par ton papa, où tu conserves les costumes que tu as imaginés, fabriqués, cousus, taillés, construits, chinés, et tu les stockes ici dans cette grange.
Je pense que c'est mon endroit préféré. Quand j'ai un petit coup de mou, je viens ici et je retrie, je range, je balance, je dis tiens ça pourrait aller à Emmaüs, je dis ah non je vais garder ça, ça pourrait servir. Il y a un stock de tissus aussi, un stock de vêtements vintage chinés un peu partout depuis que j'ai 10 ans quoi. J'avais un petit coffre à la maison chez mes parents qui est devenu le costumier de la grange et ça j'en suis trop fier, je suis trop content, enfin, j'aime beaucoup ce lieu.
Le costume, ça occupe quand même beaucoup de place dans tes occupations.
Bah, le costume, ça fait vraiment partie des inspirations. C'est-à-dire que quand j'écris, parfois, j'écris même en fonction d'un costume que j'ai au costumier. Je pense à Rillettes et Paillettes, j'avais des robes vertes et j'ai dit je veux absolument les utiliser et je vais créer un numéro autour du cornichon. C'est le côté absurde, le côté visuel et le côté bah, j'ai les costumes, donc je vais pas en acheter, je vais pas faire des costumes de cornichons. Je vais prendre des belles robes de soirée et je vais transformer les comédiennes en cornichonnes. Et on a déliré autour de ça, il y a un numéro de 5-6 minutes autour de ça qui a super bien plu quoi.
Est-ce que tu peux me montrer quelques-unes des pièces que tu conserves et dont tu es fier ?
Ça va être dur. Il y a à peu près 3000 pièces dans le costumier. Moi, ce que j'aime bien, c'est chiner des trucs waouh à Emmaüs. Je vais souvent chez les compagnons d'Emmaüs à Planet ou à Dijon. Et des choses que j'aurais pas trouvées ailleurs, ni sur les sites chinois, ni sur... dans des puces et je pense à une pièce en particulier donc il faut me suivre.
Alors je te suis grand, mais... je précise pendant le chemin que tu nous as autorisé à prendre des photos, bien sûr on va les mettre sur notre page Facebook, sur tous nos réseaux sociaux et même sur la page de l'émission, comme ça les auditeurs auront l'image en plus d'avoir le son.
Ouais, ça c'est chouette hein. Non, j'ai une pièce qui est une... a priori c'est une sorte de costume traditionnel oriental et qu'on a un peu détourné façon prince charmant. Donc voilà, ça a été mis pour une soirée à Bussy-Drabutin. Ça fait à la fois quelque chose de riche, doré, etc. Et à la fois, ça pourrait être dans une époque de Bussy-Drabutin, quoi. Un côté 17e qui pourrait tout à fait assumer avec du jabot, etc. Et là, il y a une coiffe qui a été créée par Benoît en plume bleue et dorée qui va avec le reste. Donc ça c'est une des pièces, je me suis dit, oh, quand j'ai vu ça, et moi je dis mais ça je la veux dans ma collection.
C'est vrai qu'elle est incroyable. C'est une pièce que tu vas utiliser dans Charmant mais pas que, ou pas du tout?
Non, c'est pas celui-là qu'on a utilisé, c'est un... Bah alors du coup j'ai pas le costume de Charmant et pas que, c'est le comédien qui l'a, et c'est... On a créé un duo avec Loïc sur cette nouvelle pièce Charmant mais pas que, et on avait déjà un duo de présentateurs de soirée à l'occasion du Bal des Chimères à Bussy-Drabutin l'année dernière, et Loïc portait cette pièce là et moi je portais un autre costume qu'il a utilisé pour le spectacle.
Des thématiques sur lesquelles tu as eu l'occasion de plancher, on peut citer l'Antiquité, tu nous racontes ça?
Ouais, l'Antiquité ça prend de la place dans nos vies, dans le 2150, parce que l'histoire de Vercingétorix et d'Alice Saint-Reine, elle est quand même hyper présente. Tout s'appelle Alésia dans le coin, la gare s'appelle Alésia, les restaurants s'appellent Alésia, enfin les bars s'appellent Alésia. Et naturellement, moi je fais partie du mystère de Saint-Reine depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Et quand j'étais petit, moi je mettais les costumes qu'on me donnait. En fait, il y avait une organisation autour du costume qui était établie. Et quand j'ai repris la mise en scène en 2017, j'avais vraiment envie de travailler autour d'une autre vision du costume et quelque chose qui se rapprochait plus du côté historique.
Alors, avant, je te coupe parce que avant d'entrer dans le détail de ces spectacles-ci, pour les auditeurs du Nivernais bourbonnais, un petit peu de géographie. Donc, tu parles d'Alice Saint-Reine, qui est le site de la bataille d'Alésia, 52 avant Jésus-Christ. On est ici à Lucenay, à une vingtaine de kilomètres à peu près. Et donc, sur le site d'Alice Saint-Reine, il y a à la fois l'histoire de la bataille d'Alésia vers Saint-Gétorix contre César, à la fois l'histoire du martyr de Sainte-Reine, qui est une sainte chrétienne de l'Antiquité, qui a refusé son mariage forcé avec un gouverneur romain et qu'on a décapité et dont on célèbre le culte depuis le Moyen-Âge et depuis le XVIIe siècle par un spectacle qui est toujours en cours et dont tu t'occupes en grande partie.
Oui, exactement. Je fais la mise en scène et puis je travaille autour de la communication. Donc la communication visuelle, les affiches, les flyers et puis aussi un petit peu l'aspect du costume.
Alors revenons-y du coup, ce spectacle.
Le spectacle du mystère de Sainte-Reine. Donc le spectacle du mystère de Sainte-Reine, effectivement, n'est pas contemporain de l'histoire de Vercingétorix, mais dans les écrits qu'on a vus par rapport au costume, je reviens au costume, mais je peux parler d'autres choses. Par rapport aux différents écrits et différents... Enfin, on n'a pas eu beaucoup d'écrits, mais aux différentes sources historiques, on va dire, on a une histoire de l'habillement qui n'a pas beaucoup évolué jusque dans le Moyen-Âge, en fait. On a une base de capes, une base de tuniques, et puis après, on fait un peu tout avec ça, quoi. Donc, moi, je ne suis pas le mieux placé pour parler de tout ça. Par exemple, le Musée au Parc, qui travaille beaucoup autour de cette thématique, je pense que c'est eux qui sont les mieux placés. Mais ce qui est intéressant, c'est toujours ce rassemblement de personnes qui est autour du mystère de Sainte-Reine. Donc la pièce s'appelle Le mystère de Sainte-Reine, c'est un mystère. Le mystère, c'est une forme théâtrale qui relate l'histoire du saint ou l'histoire de Jésus-Christ, par exemple. Et nous, on en fait, avec l'association, un événement annuel qui rassemble des gens de différents milieux, qu'ils soient croyants ou pas, qui vivent dans le coin ou pas. Et c'est aussi l'idée, c'est de rassembler. Et puis, encore une fois, je cite, mais la même chose que tout à l'heure pour Théâtre Village, mais il y a une buvette, on mange des gaufres, on rigole ensemble. Enfin, il n'y a pas que le côté théâtral. Et le côté...
D'abord une fête.
C'est d'abord une fête. D'ailleurs, même les anciens disent c'est la fête de Sainte-Reine. Quoi. Enfin, le mot martyr de Sainte-Reine, c'est le titre de la pièce et je trouve que c'est pas vendeur parce que ça fait un peu... Et c'est pour ça qu'on parle du mystère. Je trouve ça un petit peu plus mystérieux et plus...
Et en même temps, le mystère, c'est quand même très exact puisque c'est la forme théâtrale... Voulu.
Ouais, exactement. Et puis en même temps, on sait bien que ça se finit mal aussi et que on va détester ce tyran d'Olibrius, mais on va adorer sa cuirasse dorée et son panache blanc. Enfin, il y a quand même un côté un peu on idolâtre un petit peu les méchants. Enfin, c'est comme quand on regarde une série, on adore détester les méchants et du coup, c'est un peu dans le même esprit, quoi. Et puis le mystère de Sainte-Reine, il est écrit comme un conte, c'est-à-dire qu'elle est née dans une famille riche. Sa mère est morte en couche et elle va être élevée par une autre femme qui va l'élever dans la foi chrétienne. Et après, elle va détester le méchant qui veut l'épouser. Elle va dire non. Et une héroïne qui dit non dans un conte, il n'y en a pas beaucoup. Je pense à la Reine des Neiges. La Reine des Neiges, elle dit non. Elle dit non à un moment donné. Et j'associe pas reine à la Reine des Neiges, mais si, du coup, si.
Martyr de Sainte-Reine des Neiges, tu vas faire tirer
les
oreilles.
On va faire une version, le martyr le mystère de la Reine des Neiges. Ouais, ça serait bien, ça serait un bon début. Je vois un gros tutu bleu derrière toi qui pourrait exactement être
pourrait
parfait.
Convenir,
pour,
voilà, ouais, c'est le prochain
ça,
spectacle.
Exactement, ça, c'est le prochain spectacle.
Pour non, ce spectacle, tu dois concevoir, il y a eu à concevoir des tuniques romaines, des toges, des vêtements de paysans.
Oui, c'est ça. On a travaillé avec l'existant. Donc moi, j'ai voulu qu'il y ait une sorte de nouvelle approche du costume dans le mystère de Sainte-Reine avec quelque chose de plus historique. Et j'ai amené le tartan. Enfin, j'ai amené le tartan. C'est pas Élie Lafage qui a amené le tartan. Hein. C'est moi qui ai proposé en disant, voilà, on va essayer de mettre en place des braies gallo-romaines ou gauloises pour les hommes, qui sont des grands pantalons plutôt avec du tartan. Le tartan, c'est un tissu à carreaux, type un peu anglais. Ça, on sait que ça existait. Et puis, un peu plus de motifs. Alors, effectivement, il n'y a pas de toge à fleurs. Hein, c'était pas du tout les motifs d'époque. Mais des motifs, tiens, il y en a là, tu vois, des motifs quadrillés, un petit peu, où on voit les lignes, on voit le côté tissé. Voilà, j'aimais bien le côté tissu. Avant, il y avait des aubes qui étaient en coton, très unis, et qui me semblaient un petit peu plus fades et surtout plus tristounes. Et moi, ce que j'aime à dire, c'est que même si la mode n'a pas forcément beaucoup
beaucoup évolué à l'Antiquité. Bah, il existait des couleurs différentes parce que des teintes différentes, parce que aussi les salissures étaient différentes si on était boulanger ou paysan. Il y a tout ce côté-là que j'aimais un peu refaire. Et donc, on a beaucoup travaillé surtout sur les costumes en lien avec l'époque gallo-romaine et les villageois gallo-romaines. On a beaucoup moins travaillé sur les soldats romains parce qu'il y avait des choses qui existaient qui étaient plutôt cohérentes.
C'était déjà connu d'ailleurs.
Là, j'ai récupéré une pièce que j'ai nettoyée. C'est une pièce de, un costume de soldat des années... Je pense que d'après les photos, c'est 1920-1930. Mais alors, le problème, c'est que c'est un costume de soldat homme et plus personne rentre dedans. C'est trop petit. Il y a même les plus fins d'entre nous, ils rentrent pas dedans. Donc là, on a une jupe jaune avec une sorte de galon, un galon qui a été rajouté avec tout a été fait à la main.
Ça, c'est un costume de soldat romain.
Ouais, ça c'est un costume de soldat romain avec la représentation du soldat romain de l'époque 1900-1920. Donc je ne sais pas si historiquement il ressemble, ça ressemblait à ça, mais en tout cas moi j'ai des photos de personnes qui portaient ce costume.
Faut peut-être les voir ressembler à ça dans les très anciens livres d'histoire.
Peut-être, ouais. Ou des péplums des années 60. Parfois, dans les péplums des années 60, il y avait une représentation qui était un peu erronée. Mais par le côté spectaculaire, on proposait ce genre de costume. Quoi.
Élie, tu as travaillé également sur le spectacle Vercingétorix. On parlait à l'instant de la recherche de vérité historique. J'ai donc deux questions. Est-ce que tu te documentes ou est-ce que tu travailles avec des chercheurs pour t'approcher de cette vérité, même si, bien sûr, on reste dans le cadre d'un spectacle. Et comme tu le disais en micro, il faut aussi donner du cliché. Comment tu arbitres entre la part de vérité historique, entre la part de cliché dont on a besoin pour pouvoir identifier les personnages qui sont sur scène?
Alors effectivement, je ne suis pas un historien et vraiment ça, c'est pas un problème pour moi. L'idée, c'est de proposer quelque chose de visuellement le plus proche de ce qui peut être une réalité. Mais c'est surtout aussi proposer visuellement des couleurs qui vont pouvoir être alliées ensemble. Et puis que ça aille avec toutes les formes, les tailles des personnes, hein, parce qu'on est dans du théâtre ou de l'événement populaire et amateur. Et donc tout le monde est accepté, il n'y a pas de casting physique, j'allais dire. Donc c'est important pour nous aussi de travailler autour de ça. Et j'ai rejoint l'équipe de Vercingétorix parce que Bruno Pignalet est un collègue, une personne avec qui je travaille. Et Bruno Pignalet a créé la musique de ce spectacle, de Vercingétorix.
On précise que c'est une comédie musicale.
C'est une comédie musicale, exactement, avec une histoire d'amour inventée entre un soldat qui appartient à l'armée Vercingétorix et une fille du coin, quoi.
C'est un spectacle qui s'est joué au Théâtre des Roches, qui est un théâtre naturel sur la butte du Montsoir, donc à Alice-Sainte-Reine, l'été dernier.
Exactement, début août, il y a eu un spectacle de 3 jours avec 3 fois 800 personnes autour de cette histoire un peu magique dans cet endroit complètement magique. Ouais.
Un vrai carton pour du théâtre amateur en quelque sorte.
Ouais, je crois qu'ils étaient contents, les organisateurs étaient contents.
Alors comment est habillé Vercingétorix ?
Vercingétorix, alors moi je me suis occupé plutôt de la figuration, mais j'ai travaillé sur l'habillage de Vercingétorix. Il avait deux costumes, il avait une sorte de tunique claire avec une braie donc comme je disais tout à l'heure, un pantalon. Et puis ils ont travaillé avec des personnes, et je ne peux plus les citer. Ils ont travaillé avec des gens qui ont fabriqué des chaussures en cuir sur mesure. Et puis, il avait une immense cape rouge et puis une postiche pour avoir l'aspect cliché du long cheveu. Je ne sais pas si vraiment Vercingétorix avait des longs cheveux, et en tout cas pas de natte avec des ailes comme Astérix, mais en tout cas, c'était le choix pris pour ce spectacle. Et puis après, il avait une cotte de maille qui a été réalisée aussi sur mesure. Cotte de maille qui pesait 8 kilos, je crois.
Tenable quand même pour le comédien. Est-ce que tu as un retour des comédiens qui ont porté tes tenues?
Bah, j'ai le retour des comédiens pendant les essayages. J'ai le retour des comédiens pendant le spectacle, parce que l'idée, c'est que j'étais dans les coulisses pour enlever, aider à mettre, etc. Parce qu'il y avait un groupe de 12 danseurs et danseuses, donc du coup, ça fait partie de...
Tu as fait l'habilleur aussi.
Ouais, j'ai fait l'habilleur. Ça, c'était chouette, parce que pour une fois, j'étais pas sur 1000 fronts, j'étais que là-dessus. Donc j'avais mon kit de couture, mon épingle à nourrice, mes sangles, la ceinture qui pète, t'inquiète pas, il y en a une deuxième, la robe qui se craque, t'inquiète pas, il y en a une autre, etc. Donc ça c'est vraiment, j'ai vraiment aimé cette partie-là parce que c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire.
Radio. Élie, parle-nous de tes premiers costumes.
Je pense que les premiers costumes que j'ai mis pour, au-delà de l'aspect carnaval, hein, pour faire du théâtre, c'est quand j'imitais la Madeleine Proust. La Madeleine Proust, c'est une artiste franc-comtoise incarnée par Lola Semonin et que vraiment j'étais fan incontesté. Je connaissais tous ses textes par cœur et voilà, j'imitais. Donc c'était les vieilles blouses de mamie avec des fleurs, avec des poches, de tabliers, etc. J'avais une petite perruque grise et puis j'imitais les sketchs de la Madeleine Proust avec un peu l'accent franc-comtois et j'aimais bien. Quand on voit ce qu'on voit puis qu'on sait ce qu'on sait, on a bien de raison de penser ce qu'on pense et puis de ne rien dire. Ça, c'était ma phrase préférée. Voilà.
Les premières pièces que tu as conçues, c'était pour quel spectacle ? On va dire dans un cadre un peu, même si c'est pas forcément un cadre professionnel, au moins un cadre institutionnel, où on t'a passé commande et où tu as commencé à te dire, bon ben là, effectivement, je travaille pour le monde du spectacle.
Dans mon souvenir, j'ai toujours créé. Mais si, il y a eu un grand tournant qui s'est passé avec l'association de la Fabrique à Berlum et qui a mis en lien tous les univers qui m'animent aujourd'hui, en lien avec le monde agricole. C'était le défilé de mode agricole en 2015, qui s'est déroulé dans la ferme de chez mes parents. À l'époque, mon père était paysan et maintenant il est à la retraite. Et on a créé un défilé de mode qu'on appelle défilé de mode agricole avec des paysans ou des paysannes ou des fils et filles d'eux ou des maris et femmes d'eux. Les gens ont défilé devant à peu près 700 personnes dans un petit village où il y a 7 habitants. Et ça a été incroyable. Un univers, une sorte d'osmose de personnes qui ont porté des tenues complètement loufoques. Là, je vois, il y a des anciennes blouses de mamie qui ont été recostumisées avec des capuches version new-yorkaise, avec du tissu vache, avec du tissu herbe. Il y a des costumes des cottes qui ont été peintes avec des grands morceaux de maïs improbables, ou des vestes façon Dior, mais faites avec de la toile de jute. Et ça a été un tournant, parce que déjà médiatiquement, en fait, on en a beaucoup parlé dans la presse locale, et puis presse locale audiovisuelle, enfin France Bleu Bourgogne, Bien Public, pour ne pas les citer. Et ça a été un peu incroyable. Et à partir de là, en fait, la Fabrique à Berlu, à chaque événement, crée l'ambiance et crée surtout le rassemblement, quoi.
La Fabrique à Berlu, c'est donc cette association dont tu es membre, mais qui est gérée par ton conjoint.
Exactement, ouais. L'association de la Fabrique à Berlu, elle a été créée en 2009 par Benoît et moi. Et on est une vingtaine de bénévoles actifs. Et quand on fait des manifestations, on peut être jusqu'à 50, 60 bénévoles pour gérer les groupes, ouais.
Élie, tu sais que dans Façon de voir, il y a la pastille Avoir à faire, à l'occasion de laquelle je demande à mon invité s'il a des recommandations. Je crois que tu voulais nous parler d'une camarade de jeu dijonnaise qui, comme toi, est passionnée de théâtre.
Oui, exactement. Je voulais vous parler de Shani Kreun, qui est comédienne, qui travaille avec plusieurs compagnies en France et qui a un spectacle qui tourne aux alentours de Dijon qui s'appelle Mon cher amour, point d'interrogation. Et que j'ai déjà vu à plusieurs reprises dans le cadre personnel et professionnel, puisque je travaille avec elle aussi avec mes élèves autour de la question de l'intime, parce qu'elle travaille autour de son journal intime de quand elle était plus jeune. Et avec les élèves, on travaille autour de cette question-là. Et voilà, c'était mon petit coup de cœur que je voulais partager, parce que c'est un spectacle qui tourne de temps en temps aux alentours de Dijon, et l'idée c'est qu'elle puisse le tourner bien ailleurs aussi.
Ton actualité, Élie, la tienne, l'actualité brûlante. Le spectacle Vercingétorix, la musicale, s'est terminé. C'était un one-shot, on l'a dit, ça s'est joué l'été dernier. Le mystère de Sainte-Reine, par contre, se rejoue tous les ans depuis le XVIIe siècle, donc c'est pas prêt de s'arrêter. Ça se rejouera, tu nous diras quand. Et est-ce que tu peux nous donner quelques dates pour notre agenda sur d'autres spectacles ?
Alors, mes actualités, la tournée Théâtre au Village, ça sera en mars-avril 2025 dans les villages aux alentours du 21150.
Quant au mystère de Sainte-Reine, ça se joue quand ? Début d'automne, fin d'été ?
Le mystère de Sainte-Reine est joué tous les ans, le dernier week-end d'août, tout le temps. Donc l'année prochaine, ce sera de mémoire le 30-31 août.
De toute façon, on va noter tout ça sur nos agendas. Et puis, on te souhaite une bonne continuation, de belles perspectives avec tes spectacles. Et puis, on prend rendez-vous pour une prochaine fois.
Merci beaucoup, Samuel. J'ai été ravi de parler en particulier du costume dans le spectacle vivant, qui est une part très importante visuelle de tous ces événements. Merci.
C'est vrai qu'on en parle rarement, que c'est vraiment intéressant. Merci à toi.
Merci, au revoir.
Mm-hmm.